femme.
Oui, c'est très très difficile, bien sûr. Je ne sais pas, c'est une question qui se pose théoriquement, surtout aujourd'hui. Je crois que quand je relis ce que j'écrivais, avant que ces questions ne me soient posées, avant que je n'y réfléchisse, eh bien je me rends compte que déjà, il y avait en moi quelque chose qui était irréductible. Mais irréductible à quoi ? Irréductible, je te disais tout à l'heure, à la loi, par exemple, éditoriale ou à la loi littéraire. Mais est-ce que cette irréductibilité est le fait de mon écriture, de mon expérience comme celle de quelqu'un qui écrit, ou est-ce le fait de mon expérience de femme ? Et je ne sais pas. Et je n'ai toujours pas répondu, et je ne peux pas répondre aujourd'hui encore. Je crois qu'il y a un rapport des femmes à l'écriture quand même qui n'est pas le même que celui des hommes.
On n'écrit pas sans sexe, quoi.
On n'écrit pas sans sexe. Et en même temps, quand je dis ça, je me rends compte tout de suite que c'est à la fois vrai et faux, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains hommes qui écrivent aussi dans la résistance à la loi. Et peut-être les vrais écrivains, et en tout cas les poètes, écrivent-ils dans cette résistance à la loi. Donc il est très difficile de dire que c'est le propre des femmes. Mais il me semble qu'en tant que femme, j'en éprouve la résistance plus fortement encore. C'est-à-dire que je l'éprouve probablement sur deux plans. À la fois sur le plan de l'écriture comme telle, et en même temps sur le plan de mon expérience de femme qui sait que l'histoire n'existe pas.
J'ai rapidement refeuilleté les parleuses, Marguerite Duras et Xavier Gautier. Et Marguerite Duras dit là, dans ses parleuses, dit quelque part... comme la bonne à tout faire qui va danser se déguise en bourgeoise, la femme qui écrit se déguise en homme. Ça commence toujours par cette singerie, ce qui laisserait supposer que pour elle, il y a donc un langage homme au départ. Est-ce que c'est un avis que tu partages ?
Je ne crois pas que dans ma démarche d'écriture, je ne crois pas que écrire pour moi ait été faire une identification homme. Ce type d'identification, je le connais très bien, effectivement, on y est acculé dans d'autres domaines, par exemple, peut-être dans le domaine de la théorie ou dans le domaine de l'enseignement. Il m'apparaît plus évident dans le domaine de la réflexion théorique. Dans le domaine de l'écriture, je ne l'ai jamais éprouvé comme tel, et je dirais même qu'en fait, c'est peut-être parce que j'ai découvert l'écriture et la littérature très vite par des œuvres de femmes. Si je me souviens de mes lectures d'adolescence, eh bien, c'était des tas de choses que je pillais dans la bibliothèque locale. Et je me souviens, par exemple, je me souviens de Selma Lagerlöf, qui m'avait frappée. Plus tard, je dirais que les premières choses qui ont été importantes pour moi, ou même à la même époque, c'est vrai que c'est à peu près à la même époque, ça a été des livres de Virginia Woolf, ça a été Catherine Mansfield, qui était rééditée, je crois, pendant la guerre, dans une édition d'ailleurs de très mauvaise qualité. Et au fond, bien sûr, parmi beaucoup d'autres. Mais j'étais un peu étonnée en refaisant mon parcours de m'apercevoir que ça avait été mes premières cristallisations. Ah, j'oublie Colette aussi. Et Colette qui m'avait été révélée d'ailleurs bien avant encore par ma mère, qui me l'avait lue ou qui m'en avait communiqué des textes. De sorte que j'ai eu une filière assez féminine en matière d'écriture, bien que je sois passée aussi par la lecture... et par un très grand amour pour des œuvres d'hommes, mais très vite je me suis appuyée, inconsciemment d'ailleurs, sur des œuvres, des écritures de femmes et sur des images de femmes, de sorte que pour moi l'écrivain ce n'était pas un homme, enfin pas nécessairement un homme. Je me souviens qu'il y avait aussi Mauriac dans mes études, qu'il y avait Rilke, etc., que je lisais avec la même passion, mais disons que ce n'était pas un processus identificatoire masculin. Alors que l'enseignement, alors que la théorie, c'était pour moi un monde beaucoup plus masculin. Donc je n'éprouve pas vraiment ce que dit Marguerite Duras, je ne me suis pas déguisée en homme pour écrire.
Les rôles principaux dans tes romans, en tout cas ceux de la première période, je parle du début des années 60, alors que tu n'avais pas encore fondé le Griffe, on ne peut pas dire qu'il y avait là nécessairement un mouvement féministe qui avait pu te
pas à ce moment-là.
Oui. Les rôles principaux sont des rôles de femmes.
Oui, j'ai été très étonnée en regardant ça, de voir que dès ce moment, alors que je vivais plutôt dans un monde d'hommes par le fait de ma vie universitaire, de ma vie professionnelle, de mes relations, même de mes amitiés, au fond, Je dirais que c'est le monde des femmes qui surgit dans mon écriture. C'est même le monde maternel. Et c'est assez surprenant, surtout pour qui pouvait peut-être me connaître à cette époque, où j'étais tout de même, je te disais, enfin, assez plongée, assez immergée dans un monde typiquement masculin. Et au fond, quand j'écrivais, c'est le monde féminin qui réapparaissait, non seulement par ses structures, mais aussi par ses sujets. Presque de manière démesurée par rapport à ce que je vivais. J'ai fait un trou dans le foin, un trou plus grand que moi, et j'y ai mis ma mère. J'ai fait un petit trou, j'y ai mis mon enfant. L'âne a de longues dents, mais je les ai plus longues. J'ai tenu par la main ma mère et mon enfant.
Je reprends la petite notice qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, tu écris « Mon écriture a été d'emblée une écriture plurielle, marquée par la juxtaposition et le télescopage de plusieurs niveaux de langage. » Et c'est vrai que cette série de niveaux d'expression, elle existe depuis ton premier roman, mais ça se radicalise de plus en plus, et notamment dans 331 W20.
Oui.
Est-ce que c'est un genre, une école littéraire, ou ça correspond quelque chose, à quelque chose pour toi ?
Non, je crois que ça répond à un besoin très profond et qui est apparu dès le début du temps où j'écrivais. Je dirais que d'emblée, je sais que j'ai écrit et je savais que j'écrivais à plusieurs niveaux, qu'il y avait plusieurs niveaux d'expression, plusieurs niveaux d'écriture et de parole en moi, qu'on pourrait en gros dire d'une certaine manière, enfin je crois qu'on pourrait distinguer d'une part le mouvement lyrique, qui faisait que j'avais d'abord écrit des poèmes, et puis d'autre part le mouvement réaliste, qui est très puissant en moi, qui était celui de l'image, celui de la description, celui de la vue, non pas celui de l'effusion, mais celui du regard. Et je ne pouvais renoncer à aucun des deux. Et sur le plan des tonalités, disons qu'il y avait toujours une présence du pathétique d'une part, et d'autre part une présence de l'humour. Et là non plus, je ne pouvais pas renoncer à aucune de ces voix qui se s'entrecroisaient dans mon texte. Mais ce qui est important aussi et surtout, c'est que je savais que je n'étais pas à l'origine du langage, et des voix se prononçaient en quelque sorte à travers moi, qui, dans la première partie de mes écrits, sont surtout des voix entendues et retenues, des refrains de chansons, que d'ailleurs je reprends encore aujourd'hui, des refrains de chansons, des textes scolaires, des lieux communs, de la morale populaire, toute une série de phrases toutes faites qui viennent d'ailleurs et qui s'introduisent dans mes textes sans que je le signale nécessairement. Elles peuvent s'introduire dans mes textes et faire partie de la texture même du texte. Et par la suite, ces collages venus d'ailleurs se sont davantage distingués de mon texte, c'est-à-dire que, et ils ont changé un peu de nature, c'est devenu plutôt les titres de journaux, des textes journalistiques, des textes de journaux parlés, des textes d'affiches publicitaires, des textes lus, et au fond, disons plutôt l'accompagnement du monde objectif, du monde anonyme, du monde extérieur à moi, qui vient constamment interférer dans mon propre regard sur le monde. Et là aussi, enfin, je ne peux pas dire que que ces textes-là soient des collages totalement extérieurs, puisqu'ils s'insèrent aussi dans mon texte, mais disons qu'ils prennent quelquefois, par la typographie même, une forme qui les distingue plus nettement de la continuité ou du mouvement de ma propre écriture.
Ta manière d'écrire se radicalise de plus en plus, et notamment, entre autres, dans ce texte qu'on pourra entendre dans la prochaine émission, un texte lu par Delphine Séric. Ce texte, tu devrais le situer.
Oui, c'est un texte, enfin plutôt c'est une série de textes que j'ai repris dans un ensemble qui n'est pas encore publié, qui appartient à une période relative, enfin très récente tout de même, qui est la même période d'ailleurs que d'autres textes qui ont paru en revue, qui sont un peu différents. Et on ne peut pas dire que ce soit un texte, c'est un ensemble de textes que j'ai rassemblés précisément dans le... et qui ont d'ailleurs quelque chose de commun, qui peuvent s'accorder, qui répondent bien à ce que tu disais tout à l'heure, qui ont une structure, qui peuvent se retrouver dans une structure, mais qui ne forment pas une totalité, ni certainement une suite. Enfin, là, je crois que dans ces textes-là, il y a vraiment même presque cassure entre les différents moments. Et tout l'ensemble que j'ai préparé, enfin, que j'ai écrit dans cet esprit, va dans ce sens, c'est-à-dire que j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, que je n'ai pas hésité un instant à juxtaposer des textes écrits à des moments différents, à partir d'humeurs différentes ou de situations différentes, des textes qui partent chaque fois d'ailleurs.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune. Ce soir, une émission qui est dédiée à la femme ou les femmes et la création. C'est toujours d'ailleurs une interview de Françoise Gollin, écrivain.
Tard d'une demi-heure, l'avion. Le 23 octobre à 13h30, soit avec un retard d'une demi-heure, l'avion s'est posé sur l'aérodrome de Westchester County et les filles au voile blanc se retournent en riant. Nous sommes près de 200 journalistes à attendre. Le public n'a pas été admis. En dehors de nous, il n'y a que des militaires. Union Square Subway, 14e rue, sur la passerelle qui surplombe les rails, grincement des freins, bourdonnement, passage, puis dans le silence une petite musique. La foule va et vient, odeur de maïs grillé, hurle, jeûne, ferraille, jeûne, petite boutique, bar, jus rose, rail, jus jaune jaillissant en fontaine dans les flacons transparents, jus, ferraille, le va et vient, grincement, bourdonnement, et dans le silence, une petite musique fredonnée. L'avion prévu pour 13 heures commence à avoir du retard. Nixon, McGovern, Watergate, McGovern, Sud Dakota, Thomas Paine, Benjamin Franklin, Maison Blanche, Louis Brandeis, Washington, Vietnam, McGovern, Jack Anderson, McGovern, Nixon, McGovern, Nixon, Bobby Fischer, Judy Collins, Melina Mercury, Shirley MacLaine, McGovern, Bette Davis, Linda Hopkins, Bobby Kennedy, McGovern, Eleanor, McGovern, Nixon. Pensez-vous que les élections présidentielles affecteront le progrès du mouvement des femmes ?
Fidélité donc à une écriture plurielle, mais comme dans des tout premiers romans, fidélité à l'univers de la femme.
Je ne sais pas, elle est peut-être présente, elle est objectivement présente, mais je ne me suis jamais dit, il faut que je fasse, que je parle des femmes ou que je sois femme. Je te dis même ma surprise de penser que c'est ce qui a prédominé dès mes premiers écrits. À aucun moment je ne me suis dit que c'était là ma direction ou mon lieu privilégié. Je crois même que quand j'écris, au sens de l'écriture, proprement dite, et non pas un article ou une chose de ce genre, je pense que quand j'écris, je n'éprouve au contraire aucun dictat. Et en tout cas, écrire pour moi ne peut d'aucune manière être écrire sous l'injonction des femmes ou écrire, écrire femme. C'est écrire tout simplement, et je crois que ce qui est important, c'est d'être le plus fidèle possible à ce qui se passe au mouvement de l'écriture, au mouvement de la vie qui se passe au moment où on écrit, de laisser venir ce qu'il y a à venir. C'est la seule manière peut-être de, d'une certaine manière, écrire femme, même si on ne parle pas des femmes, c'est en tout cas la seule manière d'écrire. Je crois que toute autre écriture, lorsqu'elle se place sous l'injonction d'une idéologie ou d'un groupe, est un autre type d'écriture qui a son utilité, qui a une communicabilité immédiate peut-être plus grande, mais qui n'est pas vraiment le mouvement d'écrire.
Tu es la fondatrice des Cahiers du Griffe, le groupe de recherche et d'information féministe, et pour toi donc, il y a une différence selon les lieux où tu écris.
À mon grand étonnement, je me suis rendu compte que s'opérait en moi un clivage, effectivement, entre ce que j'écrivais dans le Griffe et mon écriture qui continuait à se développer parallèlement plutôt ailleurs que dans les Cahiers du Griffe. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne l'explique pas. Mais ce n'est pas seulement une différence de lieu, mais j'ai senti qu'il y avait là deux démarches qui n'étaient pas totalement réductibles l'une à l'autre. Et pourtant, à l'origine, je pensais que le mouvement des femmes allait être exactement ce qu'était l'écriture, à savoir une aventure radicale, sans dictat, une aventure de libération, une aventure qui nous mènerait au-delà de ce que nous étions et qui créerait même entre nous et le monde et entre nous et les autres un rapport inattendu, inouï comme celui d'une nouvelle écriture. Mmh. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il m'apparaît que le mouvement des femmes est tout de même, d'une certaine manière, un mouvement politique. Enfin, je veux dire, comme tous les autres mouvements politiques, qu'il obéit tout de même à certains processus, à certains impératifs, qu'il implique des concessions, des stratégies, et que dès lors, peut-être, il ne peut être le lieu, un lieu aussi radical que celui de l'écriture.
Tu te sens plus libre dans l'écriture que si tu te retrouves dans un lieu de femme, comme par exemple le Griffe.
Oui, je crois que je me sens plus, plus libre de toute injonction. Plus libre de toute injonction, on me dira que c'est plus facile aussi parce qu'on est seul, mais peut-être que c'est dans cette solitude que s'opère justement le travail le plus fondamental. Ce qui ne sous-estime pas du tout ce qui s'opère dans un groupe de femmes ou dans une écriture inscrite dans un travail collectif, mais qui lui donne une autre tonalité. Je crois qu'il y a tout de même toujours, dans tout collectif, qu'il soit vivant, effectif, composé de personnes, ou dans toute idéologie collective, ou dans toute aventure collective, comme celle du féminisme, du mouvement des femmes, à la fois un, comment dire, un impact très libérateur, hein, puisqu'on est libéré de ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce collectif, on est libéré de la peur, par exemple, de ne pas écrire comme il faut, etc. Mais en même temps, et presque automatiquement, un retour d'une certaine censure. On est délivré de la norme extérieure, et ça, c'est le premier moment, et je crois que c'est très, très important, et il n'est jamais oublié, il n'est jamais dépassé ce premier moment, il revient constamment dans le travail qu'on fait avec un collectif, et un collectif de femmes en particulier, mais aussitôt, également, un retour de la norme, un retour de la norme qui serait, par exemple, la norme femme ou féminisme. Je crois qu'une dimension comme celle du mouvement des femmes ou celle d'un collectif de femmes ou autres, je crois que c'est très important, mais qu'il est important dans la mesure où à la fois on lui appartient et on en sort. Je crois qu'on ne peut pas s'enfermer dans un collectif de manière constante et totale. Je crois que d'ailleurs, on risquerait de se scléroser, de s'appauvrir, et qu'il est nécessaire d'en sortir pour y rentrer. Et cette sortie, pour moi, enfin une de ces sorties, cette sortie qui est une manière de lui être fidèle en lui étant infidèle, c'est probablement l'écriture. Elle, aéroport Kennedy, compagnie Allegheny, pénètre dans la salle tenant dans les bras une gerbe de roses à demi fanée. Les têtes des roses pendent sous l'emballage de plastique. Derrière, deux fillettes en robes à volant, ou bien pantalon écossais, vert, chemisier jaune, porte ses trophées dans des sacs de papier, statuettes ostensibles, or et argent. Rejette en arrière ses cheveux légèrement gonflés sur le front, bouche mince, un reste de rouge, les yeux inondés de cils et de rimmel. Regard fixe ouvert sur la gloire, souvenir déjà, ce matin, hier, quand elle s'avançait vers, ce matin, hier, mise quelque chose, sa gerbe. Elle gravit les marches, elle s'avance, elle gravit les marches, son nom dans le micro, elle s'avance, pantalon soyeux, blouse ample, tissu imprimé, exotique, ou couleur plus nuancée. Les pyjamas sont en vogue. Elle gravit les marches qui mènent à la toilette, restroom, confie sa gerbe à l'une des fillettes qui porte ses trophées dans des sacs de papier chiffonnés, or et argent, statuette sur socle. Une des fillettes a des lunettes pour les lumières de la vie nocturne, mais aussi, pendant la journée, aux courses les plus en vogue, en imprimé exotique ou dans des couleurs plus nuancées, les pyjamas sont en vogue. Elle s'avance lentement vers l'avion. Une hôtesse à bord, bienvenue à bord. Elle parcourt quelques mètres, prend place dans le fauteuil, au tissu élimé, classe économique. Tandis que les fillettes s'agitent, réclament un coca. L'avion décolle, elle porte la main à sa gorge, ferme les yeux, tandis que les fillettes réclament. Elle vérifie les deux trophées, or et argent, dans les sacs de papier chiffonnés. La blouse de son ensemble, pyjama, imprimé exotique, ou dans des couleurs plus nuancées, s'ouvre sur un sein brun, sec, inexistant.
Земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня. Счастливому денег, и не забудь про меня.
Anna Bruknell et Radio Pleine Lune. Vous écoutez Radio Pleine Lune. C'est l'émission du soir. Un peu de musique pour finir.
Дай пердишку щедрому аж до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь
si umiješ, ja vjerju v mudrost svoju. Kak vjerit soldatu biti, što on proživajet v raju. Kak vjerit každaj uho, tihim rečam tvojim. Господи, уй Боже, зелено глазый мой, пока земля еще вертится, и это и странно самой, пока
ci vendono gli antenati.